Bonjour Julie Gacon.
Bonjour Jacques Munier, bonjour à tous.
Alors au sommaire des enjeux aujourd'hui, Huawei, les bottes de 7 lieues de la puissance chinoise.
Oui, Huawei qui fait partie de la solution et non pas du problème, c'est ce qu'a assuré hier à Bruxelles un haut représentant du géant chinois des télécommunications reçu pour fêter l'année du cochon. Il s'est dit choqué des allégations qu'il qualifie d'infondées et insensées des pays et hommes politiques, en particulier les États-Unis et Donald Trump, qui prêtent à l'entreprise des capacités d'espionnage pour le compte du régime de Pékin grâce à ses équipements sur la technologie 5G. Embarras des pays européens qui préféreraient pouvoir éviter d'avoir à se passer des produits proposés par Huawei, mais qui réfléchissent à encadrer leur développement. En France, qui a prévu de déployer la 5G l'année prochaine, en 2020, le gouvernement a proposé à la va-vite un amendement à la loi Pacte destiné à donner plus de pouvoir au pouvoir public pour contrôler l'installation des équipements télécoms, texte rejeté avant-hier par le Sénat. Bonjour Claude Meyer.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes conseiller au centre Asie de l'IFRI. Vous êtes également professeur à Sciences Po. Et avec vous, je voudrais savoir comment Huawei a réussi à être ce qu'il est aujourd'hui, c'est-à-dire le premier mondial des équipements de réseau mobile avec un chiffre d'affaires de 108 milliards de dollars en 2018. Quelle a été sa stratégie industrielle ?
Oui, donc avant d'invoquer le soutien de l'État, etc., ce que je vais faire, il faut quand même reconnaître à Huawei des capacités de recherche tout à fait considérables, avec une armée d'ingénieurs, de 80 000 ingénieurs, sur une masse totale d'employés de 180 000. Donc c'est tout à fait considérable. Le deuxième point, je pense, c'est le large marché chinois qui lui a permis déjà d'engranger un certain nombre non seulement d'abonnés, 600 millions d'internautes, essentiellement par smartphone, mais d'engranger un certain nombre de bénéfices qui lui permettent des investissements, y compris à l'étranger, massifs.
Mais une entreprise qui se refuse d'être cotée en bourse, par exemple.
Oui, tout à fait. Donc, son statut est un petit peu curieux. C'est une société, je dirais, du point de vue juridique, qui est privée. Elle a été fondée par un ancien colonel de l'armée chinoise, qui est lui-même membre du PC. Donc, les relations avec le parti et avec l'État sont extrêmement étroites. Et effectivement, il veut garder pure autonomie de la gestion de la société.
Avec un impact aussi, pardon, sur sa stratégie industrielle et sa force de frappe, puisque la façon de faire un peu militaire de Huawei fait que les employés aujourd'hui sont invités à ne pas compter leurs heures.
Absolument, absolument. J'étais en décembre en Chine, j'ai visité le nouveau siège qui est absolument rutilant. J'étais frappé par les conditions de relatif confort. Contrairement à d'autres usines que j'ai pu visiter, on sent une forme d'opulence chez Huawei. Alors l'autre élément, je pense, c'est société privée, mais un soutien extrêmement fort de l'État, car il s'agit d'un champion national, ce que cherche à faire la Chine dans tous les domaines de haute technologie. Soutien de l'État, qui est celui, évidemment, du point de vue politique général, mais y compris du point de vue un soutien financier quand c'est nécessaire à travers les banques d'État, notamment il y a quelques années, 10 milliards de dollars à des prix évidemment très avantageux.
Voilà,
l'autre élément peut-être du succès de Huawei, ça n'est plus valable aujourd'hui, mais ça a été dans le passé au plan mondial, sa politique de prix qui bénéficiait encore d'une certaine façon du niveau relativement faible des salaires en Chine, mais c'est de moins en moins vrai, ce qui fait que je crois les spécialistes disent qu'au niveau des prix, c'est un facteur qui ne joue plus.
Donc des autorités chinoises qui ont joué un rôle dans le développement de l'entreprise avec des investissements publics, des facilités de crédit, nous disiez-vous, Claude Meyer. Et en retour, qu'est-ce qu'elles attendent, ces autorités, d'une entreprise, que ce soit de Huawei ou d'une autre, d'ailleurs, à laquelle elle aurait apporté son soutien ?
Eh bien, les autorités attendent en fait, à travers la politique qu'ils mènent, que ces entreprises deviennent les champions nationaux dont elles rêvent dans un certain nombre de technologies clés, conformément au plan qu'on appelle Made in China 2025, qui liste les 10 secteurs où la Chine devrait être à l'horizon 2025-2030 une puissance dominante, sinon le leader. Elle l'est déjà dans certains domaines, par exemple les véhicules propres, etc. Mais il y a de multiples domaines. Donc Huawei est effectivement, et dans une autre mesure ZTE, qu'il ne faut pas oublier, qui est donc une autre société de moindre importance et de moindre visibilité à l'étranger, qui est aussi le deuxième champion national. Donc il y a à la fois soutien de l'État, il faut bien voir, et concurrence quand même.
Alors oui, il y a concurrence entre ces champions, mais vous dites que les autorités attendent donc de ces entreprises d'être des champions, de porter haut les couleurs de la Chine dans le reste du monde, mais de les renseigner. Alors, est-ce que l'accusation de Donald Trump face à Huawei, qui donc la considère comme une menace sécuritaire, devrait pour le gouvernement chinois, qu'est-ce qui vous paraît fondé, plausible? Quelle est la nature de sa relation à Huawei aujourd'hui avec le Parti communiste chinois?
Alors là, je dirais que les États-Unis sont peut-être les arroseurs arrosés ou réciproquement, dans la mesure où, si on se souvient des révélations de Snowden et des de la politique conduite par la NSA, demandant effectivement aux opérateurs et les entreprises américaines d'espionner un certain nombre de cibles, y compris à l'étranger, on se rend compte qu'il faut replacer cette histoire d'espionnage de Huawei dans le cadre plus général de la guerre économique au niveau de l'intelligence économique et éventuellement diplomatique. Alors, il faut la replacer dans ce domaine, mais par ailleurs, il est incontestable, il est très probable, on a des signes, mais c'est d'espionnage, notamment l'utilisation, le vol de brevets de robots d'une société américaine T-Mobile. Bon, la justice américaine est saisie, il y a 13 chefs d'inculpation, on verra ce qu'il en ressort. Mais je dirais, c'est tout à fait probable, et je pense que c'est pas la seule société de haute technologie dans le monde qui a ce type de pratique. Ce n'est pas du tout pour minimiser, c'est simplement pour rappeler que le cadre général. Mais effectivement, ça impose aux autres pays, aux États-Unis, etc., une très grande vigilance. Notamment, alors je ne suis pas technicien, mais je crois qu'il y a trois facteurs essentiels dans la 5G. C'est évidemment ce qu'on appelle radio, c'est-à-dire à travers les antennes ici et là, le transfert à travers les fibres optiques et le cœur de réseau où se trouve effectivement toute l'intelligence qui va permettre, je ne sais pas, tous les développements qu'on aura de contrôle des véhicules autonomes, un certain nombre, la médecine et d'une certaine manière l'intelligence artificielle.
Voilà, parce qu'il y a à la fois la question de l'espionnage industriel qui est un sujet en soi, mais aussi l'utilisation des données et ce dont on fera de toutes ces données collectées. Que dit précisément la loi chinoise sur le renseignement qui date de 2017 et dont on parle régulièrement à l'appui de l'accusation portée à Huawei de vouloir porter atteinte aux intérêts des clients en faisant remonter leurs données au régime chinois?
Effectivement, donc il y a une loi qui, sinon impose, du moins recommande fortement à l'ensemble des acteurs chinois à l'étranger de recueillir le maximum d'informations. Je dirais que cela, au niveau de l'incitation, ce n'est pas quand même exceptionnel. Et je rappelle que les États-Unis avaient, par le programme PRISM, exactement la même attitude, à savoir de demander aux opérateurs nationaux la collecte d'informations.
Donc quand Reng Zhengfei, le patron de Huawei, dit il y a 3 semaines que tout en aimant le Parti communiste chinois, s'il lui demandait d'espionner pour son compte, il ne répondrait pas à la requête, il se mettrait en infraction en faisant ça?
Oui, écoutez, là je me prononce pas sur la véracité ou l'honnêteté de cette déclaration.
Bon, Donald Trump essaie de convaincre les Européens de renoncer à installer des équipements Huawei. Les opérateurs disposent d'ailleurs de solides lobbies à Bruxelles. Ils assurent qu'interdire Huawei retarderait de 2 ans le déploiement de la 5G en Europe. Est-ce qu'on peut se permettre, Claude Meyer, d'avoir 2 ans de retard avec la Chine?
Alors, ça dépend. 2 ans de retard, effectivement, c'est c'est l'impression générale qu'on peut avoir vu le succès de Huawei ZTE. En fait, il faut distinguer, à mon avis, ce qui est la propriété intellectuelle et le marché international. En termes de propriété intellectuelle, Huawei ou ZTE ne sont pas premiers au monde. Hein. Les premiers au monde, c'est une société américaine, Qualcomm. Ensuite, on a Ericsson, Nokia, avec des parts de marché tout à fait significatives en termes de dépôt de brevets. En revanche, à force de Huawei, c'est l'extraordinaire expansion au niveau de la vente des équipements aux différents opérateurs. Effectivement, on a ce retard sur 2 ans, etc. Soit il y a un retard à combler peut-être du point de vue des brevets, etc. Il y a un retard à combler aussi sur le déploiement qui va être beaucoup plus rapide au Japon, en Chine, aux États-Unis, etc. Qu'en Europe éventuellement pour un certain nombre de raisons. Et il faut bien voir que effectivement, interdire Huawei et autres, c'est à double tranchant dans la mesure où ça peut retarder effectivement le déploiement. Mais je crois en tout état de cause qu'il faut une extrême prudence et que il est parfaitement recommandé de mettre en place, comme on l'a en France, cette obligation d'autorisation préalable, de manière à ce que les techniciens puissent véritablement vérifier s'il y a des portes dérobées ou non, etc.
Des portes dérobées. Merci beaucoup Claude Meyer. Vous êtes conseiller au Centre Asie de l'IFRI, professeur à Sciences Po, et je mentionne votre dernier ouvrage, L'Occident face à la renaissance de la Chine. C'est aux éditions Odile Jacob.